VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre bulletin, à notre journal. Afrique de l'Ouest, la campagne des élections locales en Guinée s'achève ce vendredi avec pour la première fois une compétition a priori ouverte pour désigner les conseils municipaux dans un pays marqué par plus de 50 ans de régime autoritaire. Quelques 5 900 000 électeurs sont convoqués dimanche à ce scrutin qui devait se tenir en 2010 mais a été constamment reporté depuis, malgré de nombreuses manifestations de protestation souvent meurtrières. Et puis au Sénégal, ouverture de la troisième conférence de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation aujourd'hui à Dakar. Réunion co-présidée par le président sénégalais Macky Sall et son homologue français Emmanuel Macron. L'objectif, recueillir 3 100 millions de dollars pour la période 2018-2020. Au Burundi, le Sénared, principale plateforme de l'opposition en exil, dénonce ce vendredi ce qu'il appelle le terrorisme d'État de la part du gouvernement à l'approche du référendum constitutionnel prévu en mai qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de diriger le pays jusqu'en 2034. Les accusations de l'opposition font suite aux propos de Revocat Ruberanzizi, chef de la branche locale du parti au pouvoir CNDD-FDD à Butinda dans le nord-est du pays, qui a menacé de casser les dents de ceux qui feront campagne pour le non. Ce sera un référendum où les gens n'auront le droit que de voter pour le oui, a déclaré à l'AFP le porte-parole du Sénared, Pancras Chimpaye. Lors du référendum prévu en mai, les Burundais doivent voter sur un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux nouveaux mandats de 7 ans. Violence en RDC, le ministre congolais de la Défense Crispin Atamatabe a confirmé ce vendredi que Kinshasa souhaite l'extradition de l'ex-colonel John Chibangu, interpellé en Tanzanie et accusé de rébellion armée par les autorités congolaises. La RDC réclamera son extradition à moins que le gouvernement tanzanien s'engage à le faire juger et purger la peine requise pour les délits qui lui sont reprochés, a souligné le ministre Atamatabe. L'ex-colonel Chibangu a été arrêté lundi à l'aéroport de Dar es Salaam. Et jeudi, la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, avait indiqué à l'AFP à Paris que John Chibangu était placé en garde à vue et en détention en Tanzanie. Sans cautionner sa lutte armée contre Kinshasa, la FIDH avait ajouté craindre un risque pour son intégrité physique en cas d'extradition vers la RDC. Au Cameroun, pas de nouvelles depuis l'extradition à Yaoundé du chef séparatiste anglophone Sissiku Ayuk Tabe. Par ailleurs, de nouveaux gendarmes camerounais ont été tués dans le nord-ouest anglophone. Plus de détails avec Raïssa Girondin.
Depuis leur arrestation au Nigeria le 5 janvier et leur extradition au Cameroun, on reste sans nouvelles du leader sécessionniste Sissiku Ayuk Tabe et d'une quarantaine de partisans. Leurs avocats disent avoir essayé en vain de les rencontrer. Le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés se dit très préoccupé. Chris Anou, membre du mouvement indépendantiste, a affirmé que si lundi 5 février, Yaoundé n'a pas donné de preuves qu'ils sont vivants, il pourrait les considérer comme morts. 3 militaires camerounais et un civil ont été tués hier dans des incidents séparés dans le nord-ouest. Depuis la déclaration symbolique de l'indépendance des régions anglophones, plus d'une vingtaine de soldats camerounais ont été tués. Issa Chiroma Bakari, le porte-parole du gouvernement, reconnaît qu'il y a une escalade de la violence, dénonçant une campagne sur les réseaux sociaux où les séparatistes invitent les populations à résister et à tuer.
Au Tchad, le gouvernement tchadien annonce son intention d'opérer une déduction automatique des jours non travaillés sur le salaire des agents de la fonction publique en grève depuis lundi. Tous les chefs de département doivent opérer le recensement obligatoire et hebdomadaire des agents absents afin qu'une déduction automatique sur salaire des jours non travaillés à partir de février de l'année en cours soit mise en œuvre, a indiqué le Premier ministre Albert Pahimi Padake, selon des propos rapportés à la presse par la porte-parole du gouvernement Madeleine Alingué. Lundi, les principaux syndicats tchadiens avaient appelé à la grève générale et illimitée dans le secteur public suite à la baisse des salaires des fonctionnaires en janvier, conséquence de la loi de finances 2018 qui ampute leur appointement d'une partie de leurs primes et indemnités. Et toujours au Tchad, il y a 10 ans, disparaissait l'ancien porte-parole de l'opposition, Ibni Oumar Mahamat Saleh. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour exiger que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa disparition. Anastasie Tudiech.
Une commémoration de 3 jours a débuté hier jeudi à N'Djamena, au siège du Parti pour les libertés et le développement, dont Ibni Oumar Mohamed Saleh était le fondateur. Les organisateurs ont voulu que l'événement soit aussi un hommage à toutes les personnes mortes pour la promotion de la démocratie et de l'état de droit au Tchad. Mahamat Ahmad Alabo, secrétaire général adjoint du PLD, réclame la restitution du corps de l'ex-opposant. Ancien ministre de 2 présidents, dont Idriss Déby Itno, Ibni Oumar Mohamed Saleh a été démis de ses fonctions en 1994, puis est entré dans l'opposition. L'enquête de la commission mise en place par N'Djamena a conclu qu'Ibni Saleh a été enlevé à son domicile par des forces de défense et de sécurité tchadiennes. Des conclusions que les autorités tchadiennes réfutent.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité hors d'Afrique maintenant au Proche-Orient, les efforts de réconciliation des factions palestiniennes piétinent. Les partis en présence ont raté jeudi une nouvelle échéance de cette réconciliation, pourtant annoncée tambour battant fin 2017. Morgan Guiriec.
Le Hamas a accepté le 12 octobre au Caire de céder à l'autorité palestinienne les pouvoirs dans la bande de Gaza. Il s'était donné le 1er décembre pour une passation des pouvoirs et début février pour régler la question sensible des fonctionnaires. En 2007, l'autorité palestinienne avait ordonné à des dizaines de milliers de fonctionnaires de la bande de Gaza de rester chez eux tout en percevant leur salaire. Le Hamas avait alors recruté des dizaines de milliers de personnes pour les remplacer, mais a cessé de les payer en 2017.
La lutte contre le groupe État islamique en Afghanistan et au Pakistan maintenant. En 2015, le groupe État islamique annonçait la création de ce qu'il appelait la province du Khorasan, une zone couvrant plusieurs régions dans ces deux pays. Le chef de cette province, Hafez Saïd, a été tué dans une frappe américaine en juin 2016. Et sa mort a constitué un sérieux revers pour le groupe terroriste qui tentait de s'y implanter coûte que coûte, même en recrutant des enfants. Aïcha Tamzin de la Voix de l'Amérique a rencontré 2 d'entre eux. Son reportage, relaté par Jacques Aristide.
Lal Mohamed est un ancien enfant soldat.
J'avais 9 ans quand j'étais avec eux et maintenant j'ai 12 ans. Ils nous montraient des vidéos sur la façon de se battre et de commettre des attentats suicides.
Pendant près de 2 ans, Lal Mohamed et son frère, Bakhti Ali, ont vécu et ont été formés par le Khorasan du groupe État islamique. Maintenant, ils sont de retour et tentent de se réadapter à une vie normale. Nous sommes chez eux dans le district d'Achin de la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan. Ils nous répondent sous l'œil attentif de leur père et du chef de la police locale. Les djihadistes sont entrés dans chacune des maisons de la localité pour recruter des adultes et des enfants. Bakhti Ali.
Les commandants du groupe nous montraient des vidéos des infidèles opprimant les musulmans. Ils nous disaient que la police locale et l'armée étaient leurs marionnettes, que nous avions besoin de faire le djihad contre eux.
Leur père Tawiz Khan s'est laissé convaincre par la propagande. Il a donc rejoint le Khorasan, emmenant ses fils avec lui.
J'avais environ 16 ans. Je n'avais pas cette barbe à l'époque. Il y avait beaucoup d'enfants là-bas. Ils avaient l'habitude de dire à ses enfants que s'ils commettaient des attentats à suicide, tous leurs problèmes seraient terminés et ils iraient droit au paradis.
Ils sont passés par un apprentissage et style militaire, exercice physique et d'armement, utilisation de pistolets, de fusils d'assaut automatique AK-47, de bombes et de lance-roquettes. Le but ultime était de faire 2 des kamikazes. Finalement, ils ont mis le frère cadet sur le champ de bataille, Lal Mohamed.
Les combattants de Daesh m'ont dit que nous allions rester derrière. Après, ils m'ont dit, tu dois aller devant et exploser ta ceinture explosive.
Mais les djihadistes ont perdu ce combat et ont dû se retirer.
Nous avons vu beaucoup de gens se faire massacrer. Nous voulions aussi massacrer quelqu'un parce qu'on nous avait dit que cela nous apporterait de saintes récompenses de la part de Dieu.
Finalement, leur père ne pouvait plus le supporter. Ils ont fui avec d'autres hommes. Le père travaille maintenant avec la police qui offre une certaine protection. Mais il connaît le danger si le Khorasan arrive à reprendre le contrôle de la région. Si ces 2 jeunes garçons sont maintenant en sécurité, personne ne sait ce qui est arrivé aux dizaines d'autres qui étaient dans les madrasas contrôlés par le groupe État islamique.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.